m'invitant à parler devant vous des valeurs spirituelles de la civilisation. Je crois que c'est moins à l'auteur de la défense de l'Occident qu'à l'événement même que nous vivons, que vous avez pensé. Et ce que vous disiez tout à l'heure le prouve. Car ce qui, en 1927-25, pouvait sembler n'être qu'une conjoncture arbitraire, c'est une réalité. Et la plus pressante de toutes, c'est la jonction même du destin. Les périls qui menacent la civilisation d'Occident ne semblent plus des dangers imaginaires. Une succession croissante, rapide, d'événements désastreux inspire à notre monde, naguère encore si certain de lui-même, si fier de ses progrès, le plus sombre doute sur un avenir dont parfois même il se prend à désespérer. Vous vous souvenez du pathétique fragment sur la crise de l'esprit que Paul Valéry écrivit au lendemain de l'autre guerre. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. C'est une phrase où se sont accordées les plaintes d'une génération catastrophique destin et qui a retenti d'un bout à l'autre d'une Europe blessée dans son esprit et dans sa chair. Et quelle singulière fortune n'a-t-on pas faite à ces pages qui se terminent par une ligne de points, alors que l'esprit anxieux interroge à son tour, demande, exige de celui qui lui montre son mal, qu'il l'apaise, le conseille, le conduise quelque part. Et pendant des années, cette interrogation demeura sans réponse. Et quand Paul Valéry rompit enfin le silence et qu'il consentit à formuler ce qu'il appelait d'un terme mystérieux et vague, une politique de l'esprit, eh bien, il ne fit rien d'autre encore que d'évoquer un tableau de désordre et de tracer une composition de chaos. C'est le chaos, dit-il, que je vous demande de penser. Il y faut un certain effort, expliquait-il, car nous finissons par être intimement habitués à lui. Nous en vivons, nous le respirons, nous le fomentons. Il arrive que le chaos soit pour nous un véritable besoin. Nous le trouvons autour de nous, comme en nous-mêmes, dans le journal, dans nos journées, dans notre allure, dans nos plaisirs et jusque dans notre savoir. Et Paul Valéry de conclure, le chaos nous anime et ce que nous avons créé nous-mêmes nous entraîne, nous le savons et où nous ne voulons pas aller. Je crois que jamais des missions de l'homme ne fut plus explicite, plus lucide, ni davantage formulé au point le plus net en parfaite connaissance de cause. Jamais l'esprit ne s'est senti si totalement inutile. Peut-être attendez-vous de moi une conclusion, disait Paul Valéry au terme de son propos. C'était pour déclarer, j'ai précisément pour objet l'impossibilité de conclure. Et voilà le dernier mot de cette politique de l'esprit qui se borne à décrire l'aventure dans laquelle le genre humain, s'éloignant des conditions premières et naturelles de l'esprit, s'est engagé, allant on ne sait où. Si la civilisation, monsieur tout entière, est remise en jeu, c'est, contrairement à ce que disait Paul Valéry, que la table de jeu a été renversée. C'est que l'esprit moderne a ignoré et blessé aveuglément, dit Bourdieu tout à l'heure, l'être humain dans son exigence essentielle, presque partout dans le monde d'aujourd'hui. on semble avoir perdu de vue que l'homme, et je le répète encore vos propos, est la seule réalité terrestre qui ne puisse être perdue de vue et qui ne puisse être une monnaie d'échange, car c'est en raison de lui, c'est en raison de la personne humaine que tout doit être évalué. Une certaine prospérité mythique, une certaine foi en l'excellence absolue d'une machine sociale, huilée de moralisme puritain ou de dialectique marxiste, on réduit à néant le petit être de chair et de sang qui s'était soumis le monde. Il ne compte plus que comme élément, serviteur et victime de cet idéal dévorant. Et c'est précisément l'instant qu'il convient de choisir pour ériger l'homme en juge de ces systèmes qui se le disputent comme une proie. Devant les idéologies qui le sollicitent de toutes parts, l'homme doit défendre son droit de choisir entre elles. Il lui faut s'affirmer au-dessus d'elles comme une loi suprême. Quelle grandeur, quelle liberté, quelle raison de vivre et de mourir m'apportez-vous, doit-il dire à leur propagande rivale. Quelle humanité, quel humanisme. Ce n'est pas en raison de la production, de l'égalité, de la richesse, ce n'est pas en raison de vos mythes et de vos mensonges que tout doit être évolué. C'est en raison de cette chair pensante qui a sur vos machines l'inégalable avantage de refuser. C'est en raison de l'homme. Et avant de dresser quoi que ce soit contre une société inhumaine, il faudrait d'abord trouver ou retrouver ce que peut l'homme et ce qu'il veut. L'homme, en effet, doit être la première notion à restaurer dans un monde où sa grandeur et son salut possible semblent aujourd'hui absents de tous les calculs. Eh bien, ce sont ces valeurs d'esprit. Bon, vous le rappeliez tout à l'heure qu'il importe de rétablir d'abord tous les problèmes présents. Ils doivent être confrontés à ce que nous estimons au plus haut prix, la sauvegarde d'un essentiel qui risque d'être perdu. Il s'agit en effet d'une lutte pour la vie, pour une certaine noblesse, pour une certaine perfection qui est plus que la vie même, puisqu'elle en est la justification. Ce qui est engagé dans les conflits actuels, ce sont les valeurs par lesquelles notre existence reçoit un prix, une grandeur possible, et cela pour tous. Et si l'homme n'était vraiment rien d'autre que ce pauvre être dégradé par la conscience obscure, absorbé dans ce qu'on appelle la masse, les grands mythes matérialistes et totalitaires seraient apparemment les seuls qui puissent lui convenir. C'est dans la mesure où nous nous fondons sur une philosophie, sur une foi, capable d'opposer aux idéologies dont ces mythes procèdent l'universalisme de la vérité, que nous savons qu'ils ne peuvent pas suffire à l'homme. Et cette doctrine, cette foi, vous le rappeliez tout à l'heure aussi, c'est proprement la sagesse de l'Occident, celle que l'Occident incarne, celle de l'homme universel dont Troisville symbolise les valeurs permanentes, Athènes, où la raison est la mesure des choses, Rome, où le monde de la loi et du droit, Jérusalem, où l'adoration en esprit et en vérité, l'amour de Dieu et de tous les hommes. Et ce qu'elles ont en commun sous leurs diverses figures, ce sont ces idées de personnalité, d'unité, de stabilité, dont on a pu dire quelles sont les idées mères de l'Occident, celles qui ont donné à l'homme ses lignes et tout procède en effet dans ce que nous pensons, dans ce que nous sommes, de ce monothéisme judéo-chrétien enrobé dans l'héritage de la culture gréco-latine et qui a mis l'accent sur l'unité, sur la personnalité, sur la finalité de l'être, un seul Dieu, une seule humanité, et du même coup, une loi, une raison, une morale commune et universelle. Et pas une de nos idées qui ne trouve dans ce grand principe unitaire, sa substance et sa forme. L'homme occidental, en le recevant, y a découvert que l'esprit est fait pour dominer le sensible, le divin pour commander à l'humain, le viager pour se subordonner à l'éternel, et que chaque chose a sa place, ses limites précises, qui la conditionnent en la définissant. Et le seul commun dénominateur qui nous permette de croire à ce terme d'Occident et de lui donner un sens qui ne soit pas seulement géographique, qui donne au mot de civilisation sa vraie signification, c'est le trait chrétien. Et que l'on n'objecte pas que l'Occident se détache du christianisme, si déspiritualisé, si déshumanisé, si déchristianisé qu'il soit, notre monde, son âme, sa conception de la vie et de l'univers, ses principes de discernement et d'évaluation morale et jusqu'à son idée de la science, c'est le christianisme qui les a fait. Pour connaître son essence, c'est là qu'il faut l'aller chercher. L'ordre chrétien, ses fondations vivantes, sont à ce point inhérents à notre être que nos erreurs elles-mêmes, sont encore revêtues de cette grandeur d'origine, et même chez les incroyants, le christianisme reste à l'entrée des avenues profondes de l'âme. Et ce n'est pas, messieurs, ce n'est pas identifié, et nous reviendrons là-dessus, ce n'est pas identifié le christianisme et son message universel avec une forme de civilisation particulière que de dire que toute la vie politique, morale, sociale de l'Occident, en ce qu'elle a de plus fécond, de plus efficace, découle de cette source métaphysique et religieuse qui en règle les mouvements et le cours par une suite de rapports réels autant qu'infrangibles. C'est de l'idée d'unité transcendante et qui est le fruit de la plus pure sagesse que s'engendre selon les harmonies profondes de la nature et de la raison, du vrai et du bien, de l'esprit et de l'action. Toutes les généralités directrices, toutes les notions gardiennes de l'humanité, dont l'ensemble compose la législation de l'esprit humain. Et voilà à quelle foi, voilà à quelle doctrine nos sociétés ont alimenté leur autorité, leur puissance créatrice, mais, et c'est la question que l'on se pose aujourd'hui, n'est-ce pas là ce qu'elles sont tentées d'oublier? C'est à l'heure même où les progrès de la technique se flattent de réaliser l'unité du genre humain que se produit la plus complète rupture d'équilibre qu'il ait jamais connue. Oui, le genre humain est moins uni que sous Titus, où toutes les races civilisées se groupaient sous les mêmes faisceaux. Le genre humain est moins unifié que du temps de Saint-Louis, où tous les peuples chrétiens étaient fédérés sous la tiare. La facilité des communications matérielles qui devait réaliser l'union des âmes a bien pu uniformiser le monde, elle ne l'a pas uni. Car la matière est essentiellement diviseuse, et les hommes ne communiquent que dans l'immatériel. La pensée, elle, étale aujourd'hui partout ces diversités incompatibles. Les idéologies se dressent en concepts antagonistes qui prétendent s'asservir l'essence même de l'esprit. Oui, l'esprit est cruellement blessé. Matérialisé à son tour, il semble avoir perdu conscience de sa finalité propre. Le progrès mécanique l'a si bien corrompu que rien, parmi les meurtrières rêveries des utopistes, ne peut être comparé à ses résultats positifs. Production et productivité, n'en sont-ils pas l'unique objet, mais quel ne sera pas son saisissement et sa terreur lorsqu'il reconnaîtra son incapacité à produire quoi que ce soit, sinon l'amour? Et dans quel désespoir notre siècle n'entrera-t-il pas quand il mesurera son néant spirituel et son infécondité? Nous sommes en effet menacés de périr par où nous avons cru vivre. Et jamais, Thibon l'a dit souvent, jamais, la scission entre l'homme et les techniques dont il dispose ne s'est manifestée de façon si totale que l'homme a mis toute sa foi dans une amélioration croissante et presque fatale des conditions matérielles de la vie. Technocratie et marxisme font d'ailleurs, dans le progrès matériel, un même acte de foi. C'est dans la technique, et dans la technique moderne, disent-ils, que l'homme doit désormais découvrir ses raisons de vivre, accroître sans borne la puissance créatrice de la raison. Croire que le monde moderne est créateur parce qu'il produit dans l'ordre de la technique, c'est, messieurs, la plus dangereuse des illusions, car si impressionnant que soient les progrès de la technique et tout permet de croire qu'ils n'ont pas fini de nous étonner, il n'en reste pas moins qu'on ne vit pas de la technique. La seule création qui vaille est celle qui est un enrichissement de l'âme humaine, celle qui fait que l'âme s'atteint elle-même dans sa profondeur et qu'elle découvre une richesse qu'elle n'avait pas soupçonnée jusque-là. Et Thibon, jadis, eut l'occasion de dire la technique qui a doté l'homme de rallonges extérieures indéfinies n'a pas, malgré tous ses efforts, ajouté un coude à sa stature intérieure. C'est en effet dans l'univers moral que l'homme prend et développe sa taille. C'est là que sont ses vraies mesures, est-il bon ajouter, si fascinantes que soient les techniques, elles ne le grandissent pas d'un pouce, elles ne font que le dépasser, d'où son déséquilibre. C'est à permettre le plein épanouissement de la personne, de la personnalité morale, que les réalisations matérielles et les institutions temporelles doivent s'appliquer. Tout le système, comme dit Gabriel Marcel, tout le système des droits et des avoirs doit être ordonné à la personne humaine considérée à la fois dans sa réalité absolue de créature intelligente et libre et dans sa constitution également essentielle de membre de sociétés multiples par lesquelles l'homme est mis en mesure de réaliser sa propre fin. Il y a une communauté et un universalisme qui non seulement sont compatibles avec la personne, mais qui lui sont nécessaires. Et cette communauté est celle qui se parfait sur le plan des valeurs spirituelles et morales, car la spiritualité est la raison ultime de tout ce qui se recouvre du nom d'homme. Et l'homme est aujourd'hui sommé de choisir comme il ne l'a jamais été, car il ne retrouvera son pouvoir sur le monde qu'en se reconquérant lui-même, qu'en sachant ce qu'il est, ce qu'il doit être, et qu'en retrouvant ses propres mesures, et c'est cela que nous appelons la civilisation. Il faut des siècles à une civilisation pour se construire, et c'est là justement que la technique joue contre la civilisation. Toute la technique, vous le rappelez encore, tend à la vitesse, et elle-même se transforme avec une rapidité surprenante, est de plus en plus grande. Mais, on l'a justement souligné, la vitesse de maturation des esprits, elle, est d'un autre ordre. Un esprit mûrit lentement. Un peuple mûrit lentement. Les grandes œuvres qui expriment une civilisation sont le fruit de la contemplation cultivée, épanouie au cours de générations successives. Et la civilisation elle-même est un héritage. Elle est un capital, et un capital transmis, comme disait Bainville. L'individu, en effet, trouve en naissant beaucoup plus qu'il n'apporte. Et à ceux pour qui ce mot d'héritage semblerait une notion périmée, une valeur qui n'a plus cours, l'habitude de répondre en citant ces mots de Goethe. L'héritage que tu as reçu, si tu veux le posséder, il te faudra le conquérir de nouveau. Un héritage n'est pas une chose inerte, une chose morte. Un capital que l'on soit pour en jouir en le laissant périr. Passéisme, disent les adorateurs de l'évolution qui sont la plus frivole espèce de croyants. Car la fascination du nouveau, l'aspiration à l'inconnu ne sont trop souvent qu'une manière de fuir les nécessités réelles, les ordinations de nature et ne pas se tromper sur la nature de l'homme. Ne pas vouloir à tout prix adapter l'homme aux changements qui bouleversent le monde, mais adapter ces changements à la nature éternelle de l'homme, c'est là que tout sera bien. Thibon vous le disait tout à l'heure. C'est parce que ces changements sont précisément bouleversants et menacent de subversion jusqu'au rapport des choses qu'il faut se cramponner, si l'on peut dire, et avec plus de force, à ce qui tient. Au nom du dogme évolutionniste, sous le couvert du devenir cosmique, une fausse philosophie aujourd'hui se répand, qui voit dans le temps ce qu'elle appelle un accroissement positif de l'absolu. Dirais-je que si l'absolu peut s'accroître et progresser, ce n'est plus un absolu. Mais cette philosophie, qui se résume dans l'affirmation que le temps est créateur, n'en est pas au reste, mais je suis à une contradiction près. Qu'il y ait du nouveau, ce n'est pas au temps qu'il faut l'attribuer, mais aux causes actives en jeu dans la nature. L'évolution n'est pas création, elle est développement. Elle est développement de ce qui est et que recèle en puissance la nature créée. Il ne s'agit pas d'ailleurs pour l'homme du XXe siècle de rester aveuglément fidèle aux formes accomplies d'un passé vénérable. Il s'agit pour lui de reconnaître et de respecter les lois éternelles qui régissent la formation et l'enrichissement de l'esprit humain. Il en va pareillement dans l'ordre des valeurs morales. Avant que de se faire, il faut que l'homme sache tout ensemble ce qu'il est et qu'il a quelque chose de plus haut et de meilleur que soi. Et de cette connaissance, il importe que les idées soient justes, les maximes exactes, et il y va de tout l'art de penser et de toute la conduite. Aussi bien, n'est-il pas pour l'homme occidental de besoin plus pressant que de se définir lui-même? L'embarras où il se trouve ne tient pas seulement aux circonstances qui le meurtrissent. La lutte qui ébranle la cité, c'est d'abord en lui qu'elle fait rage. Et de quoi souffre-t-il? De ses pensées diverses, de ses foi différentes, de ses sciences inégales, de ses morales particulières, de ses éducations dissemblables. Il manque une vérité ordonnatrice ou puiser l'âme de ses actes. Ou plutôt, il en a laissé corrompre la source quand il n'a pas lui-même corrompu. Sa faiblesse essentielle, elle est, dans son esprit, perpétuellement tiraillée entre ses évidences et ses conjectures, ses vertus et ses convoitises. La variété des arts de pensée, telle que les opinions et les métaphysiques les traduisent, a tout autant que les rivalités d'intérêts ou la violence des passions humaines ensanglantées la terre. Et sans doctrine, sans un esprit commun, sans une philosophie qui donne aux choses le même nom et entendre par les mêmes signes, les mêmes idées, il n'y a pas de remède aux maux qui désolent les États comme les individus. Le problème qui se pose devant nous est donc spirituel d'abord.